Radio Okapi.
Jocelyne Moussa Oponde pour le journal.
Célébration ce vendredi 17 mai de la journée des forces armées de la RDC. Le chef de l'État préside en ce moment une cérémonie à la place du soldat congolais. Le bilan de l'attaque mercredi dans l'armée à Tara en Ituri s'alourdit. 19 autres corps sans vie ont été trouvés hier jeudi et ce vendredi. Ceci porte à 23 le nombre de personnes tuées lors de cette incursion. Dominique Sam, directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, est notre invité. Il vient d'effectuer une visite de travail à Kananga. C'est là pour s'imprégner des besoins de la population après la dernière crise dans la région. Bonjour à tous. Commençons au nord Kivu, où la tension est encore perceptible à Kiwanja, 75 km au nord de Goma, dans les territoires de Rutshuru. Les populations sont depuis cette nuit dans la rue pour protester contre l'insécurité et le meurtre d'un jeune élève tué hier par un policier. Les activités sont partiellement paralysées et les barricades sont placées sur la route principale, empêchant toute sortie de Kiwanja. Un récit de Gisèle Cage.
Depuis hier minuit, les populations de Kiwanja ont pris possession de la principale route qui mène vers Butembo dans le Grand Nord et vers Goma. À l'aide de troncs d'arbres, grosses pierres, pneus, des barricades ont été montées à Kitoboko sur l'axe rond-point Kiwanja-Butembo. Pas d'entrée donc, ni de sortie tout l'avant-midi à Kiwanja. L'armée a dû venir en renfort à la police, débordée par la situation. Pendant ces temps, le quartier Butorande, là où le jeune Gédéon Bangera Hene a été touché mortellement hier par une balle de la police alors qu'il revenait de l'école, reste paralysé. Les manifestants exigent de la justice militaire l'organisation urgente d'un procès en flagrance du policier présumé auteur du meurtre du jeune élève. Celui-ci est actuellement détenu au cachot de la police et sera remis dans les heures qui suivent à la justice militaire, a dit un responsable de la police à Rutshuru. Pour l'instant, le fonctionnaire délégué du gouverneur à Kiwanja dit que les négociations avec les manifestants pour lever les barrières n'ont encore rien donné. La population attend que ces revendications trouvent satisfaction avant de faire un geste, indique le même responsable. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Et puis, les habitants de Bouniakiri en territoire de Calais alertent l'opinion sur la situation de l'insécurité créée par la présence des éléments des FDLR dans leur milieu. La société civile de Bouniakiri affirme que ce mouvement des FDLR constitue une menace sérieuse à la population de Calais en général. Elle s'exprime à travers une correspondance adressée aux autorités nationales et provinciales. Emmanuel Elamé Joakabidi.
Les habitants du territoire de Calais parlent d'un mouvement de transplantation des ex-combattants rwandais depuis le mois de janvier dernier en provenance du territoire de Masisi au nord Kivu. À cette vague s'ajoute un autre groupe de FDLR en provenance de Mwenga et qui se sont installés toujours dans Calais. La société civile de Bouniakiri dit ne pas comprendre comment toute une armée étrangère peut circuler librement à l'intérieur de la RDC sans être inquiétée ni interpellée. Ainsi, cette présence des FDLR constitue-t-elle une menace directe à la population de Bouniakiri et de Calais en général? Une population victime de plusieurs cas d'atrocités et des massacres ayant conduit au viol, pillage et autres. La société civile de Bouniakiri dit ne pas être prête à cohabiter avec ces visiteurs jugés indésirables. Dans ces documents, les habitants de Calais demandent au chef de l'État, garant de la sécurité, et à la MONUSCO de prendre des mesures urgentes pour le retour immédiat de ces éléments d'FDLR dans leur pays, le Rwanda. Au gouvernement provincial du Sud Kivu, l'on dit s'est penché sur la question tout en demandant à la population de Bouniakiri de rester vigilante. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
En Ituri, 19 corps sans vie ont été ramassés hier jeudi et ce vendredi matin dans la localité située à une centaine de kilomètres au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Le chef de la chefferie de Bahema Nord indique qu'il s'agit des personnes tuées lors de l'attaque des assaillants dans cette entité le mercredi dernier, ce qui fait un bilan de 23 morts lors de cette incursion. La société civile locale parle d'un massacre contre cette population à majorité de pêcheurs. Le gouverneur de province à l'intérim indique que des dispositions sont prises pour un enterrement digne de ces civils. Les détails avec Martial Kizabiamungu.
Ces corps sont
ont été ramassés en majorité à Tara et d'autres dans les localités voisines des Songa, Moya Ede et Torges, toujours dans les groupements de Do au bord du lac Calbert. Selon les chefs de la chefferie des Baïma Nord, ce sont deux militaires FARDC et un groupe de pêcheurs qui procèdent depuis hier et ce matin au ramassage des personnes tuées lors de l'incursion des assaillants non autrement identifiés dans les milieux lacustres. Pilo Molintro indique que certains corps ont été décapités et sont en état de décomposition très avancé. La société civile locale parle tout simplement des massacres perpétrés à cette population riveraine. Son président exige des enquêtes sérieuses à ce qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Il ajoute que ce bilan pourra être alourdi car des recherches se poursuivent dans ces milieux. D'autres sources locales parlent de 8 personnes grièvement blessées, dont 3 enfants. Les gouverneurs des provinces à l'intérieur Pacifique et Taupar indiquent que des démarches sont en cours avec la Croix-Rouge pour enterrer dignement ces civils. Depuis Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je le disais, en titre, les mémorials du soldat congolais situé au rond-point Forescom, ici à Kinshasa, sert de cadre ce vendredi 17 mai pour la commémoration de la journée dédiée aux forces armées de la RDC, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a déposé une gerbe de fleurs en signe de reconnaissance au sang versé par les militaires congolais pour sauvegarder l'indépendance nationale et la paix. La commémoration est marquée par le paiement des allocations de fin de carrière de 267 militaires mis à la retraite en 2003. Billy Van Lutumba a assisté à la cérémonie.
La date du 17 mai a été choisie par le législateur pour célébrer l'armée nationale, magnifier les morts tombés sur les champs d'honneur et reconnaître le mérite et la bravoure de ceux qui sont encore sous le drapeau. Un moment émouvant pour les hommes en uniforme qui se sentent honorés en ce 17 mai 2019, car certains d'entre eux ici au rond-point Forescom ont laissé couler quelques gouttes de larmes en mémoire de leurs collègues. Le paiement de ces allocations intervient après 20 ans. Il constitue pour bon nombre des militaires une première dans l'histoire des forces armées du fait que plusieurs d'entre eux, admis à la retraite, continuent d'attendre leurs droits. Ils espèrent ainsi que la voie à une normalisation de leur situation administrative après une carrière au service de la nation est ouverte. Après avoir déposé sa gerbe de fleurs, le chef de l'État a encouragé de vive voix quelques officiers bénéficiaires d'allocations, parmi lesquels les généraux. Autre acte pour célébrer cette journée, juste après la remise des allocations, militaires et policiers se retrouvent présentement au camp Kokolo pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus chez les personnels militaires féminins de l'armée et de la police. Depuis le camp Kokolo, Billy Yvan Lutumba ou Radio Okapi.
Parlons à présent des contentieux de résultats des élections législatives nationales à la Cour constitutionnelle. Selon le greffe électoral, près de 40% des dossiers viennent d'être examinés sur le fond. À ce jour, les arrêts rendus sont encore loin d'atteindre les 100% du travail attendu de la Cour pour clôturer tous les dossiers. Et en attendant, dans les couloirs de la Haute Cour, des cas de corruption et manœuvres dilatoires sont dénoncés par certains requérants et contestataires des résultats. Parmi eux, l'ASBL, Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines. Elle lève les voiles sur ce qu'elle qualifie des manœuvres de corruption des juges constitutionnels. On écoute le membre de cet ASBL, maître H.R. Kajangou, au micro de Jeff Ngoy.
Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, de peser de tout son poids afin que l'état de droit puisse s'affermir durant son mandat dans les organes locaux de nos États-Unis. Et ce, dans le respect du calendrier de la CENI, il les convie de recommander au gouvernement ce qui suit, de mettre urgemment tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour la tenue des élections municipales et locales, car la décentralisation doublée de l'éveil de conscience de la population va impulser le développement de nos entités territoriales décentralisées et, par ce fait, même du pays tout entier. Mettant ainsi fin à la gestion calamiteuse de la Respublica des méchants fils de la RDC.
Vous avez plutôt écouté Célestin Otto, président de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa. La commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa demande donc au chef de l'État et à la CENI d'organiser les élections municipales et locales. Cette structure catholique a lancé cet appel hier jeudi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Elle fait remarquer que depuis 2006, la CENI n'a toujours pas organisé ces élections qui devraient permettre d'élire démocratiquement les membres devant diriger les entités territoriales du pays. Et nous reviendrons plus tard sur cette nouvelle, sur cette déclaration de l'ONG Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines.
L'invité.
Le directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement a bouclé mercredi une visite de 3 jours à Kananga. Invité de Radio Okapi, Dominique Sam indique avoir voulu s'imprégner des besoins de la population après la dernière crise pour permettre au PNUD d'aligner son appui. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Dominique Sam, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel a été l'objet de cette mission?
C'était juste une visite de prise de contact depuis ma nomination à Congo. RDC, il y a 3 mois que je suis arrivé. Ne serait-ce que prendre la température, vu les questions opérationnelles sur le terrain, rencontrer les autorités, pour pouvoir tirer mes propres impressions dans le contexte auquel on travaille.
Voilà, l'espace Kasaï sort d'une crise et sa population a besoin de l'assistance. Avez-vous évoqué cette nécessité avec les autorités de la province?
Oui, effectivement, j'ai rencontré monsieur le gouverneur avec le ministre. On a discuté de l'ensemble des problématiques de Kasaï. Dommage, Kasaï, grand central qui fut une fois, l'oasis de la paix est devenu une province, crise, conflit. Donc on a discuté l'ensemble des problématiques de développement, l'humanitaire, relèvement précoce, stabilisation, juste pour voir comment est-ce qu'on peut aligner notre appui auprès des autres agences du système des Nations Unies pour mieux servir le gouvernement dans ce contexte.
Pour répondre à la crise qui a secoué l'espace Kasaï, le PNUD a annoncé dernièrement une aide de plus de 3 millions de dollars américains. Est-ce que cette assistance compte pour tout l'espace Kasaï?
Oui, ça compte pour tout l'espace Kasaï. C'est un appui de PBF à travers le PNUD et ça vient aussi ajouter aux propres ressources de PNUD pour commencer à adresser le problème cause des conflits, genèse et aussi le problème de formulation de cadre de programmation à moyen et à long terme.
Quels sont les secteurs prioritaires pour le PNUD aujourd'hui s'il faut apporter une assistance à cette population meurtrie?
Disons que le PNUD va venir joindre ses efforts aux efforts de ce qu'apportent déjà d'autres agences qui sont un peu spécialisées dans l'aide humanitaire. Donc pour le PNUD, ça ne sera pas pour venir encore avec l'aide humanitaire, mais pour commencer à voir comment est-ce qu'on peut travailler à côté des agences qui apportent l'aide humanitaire, se focaliser sur les aspects de stabilisation, relèvement précoce et planification à moyen terme vers les ODD, parce que c'est là la valeur ajoutée du PNUD.
Pour sentir réellement l'impact de cette assistance, c'est des projets que le PNUD initie dans la durée ou c'est des projets à court terme?
C'est un peu de tout. Il s'agira de projets à court terme, mais surtout, comment travailler dans l'espace relèvement précoce, stabilisation, pour être le pont entre l'humanité et le développement. Donc, on va voir les projets à courte durée. On va aussi aider le gouvernement provincial à localiser les ODD et puis à partir de cela, à faire un plan de développement provincial avec des plans d'action prioritaires, mais surtout à renforcer les capacités provinciales en matière de réalisation de ces plans dans les domaines de suivi et évaluation, de monitoring, dans les domaines d'adéquation au budget plan, dans le domaine de coordination de l'aide au niveau provincial. Des aspects, à mon avis, qui sont très importants pour commencer à pérenniser une fois pour toutes l'action qu'on fait au niveau humanitaire vers le développement. Et les ODD.
Il y a également cet aspect de création de sources de revenus. Est-ce que le PNUD a pensé à cette question dans le projet pour aider cette population à s'inscrire dans les projets de création d'emplois ou de revenus?
Oui, dans le cadre de projet, donc, on a fait mention tout à l'heure de PBF, il y a un composante qui touche le livelihood, donc justement à ces questions-là. Mais pour nous, Ça ne sera pas ça la solution. La solution se retrouvera dans le cadre de programme d'action prioritaire qui sera formulé avec le gouvernement pour pouvoir commencer à pérenniser les actions, pour pouvoir commencer la mise en échelle des actions qu'on fait à travers les petits projets de développement. Parce que c'est ça qui a peut-être manqué de par le passé, qu'on n'arrivait pas à réfléchir profondément sur comment aider le gouvernement à mettre en échelle toutes les leçons tirées et toute l'action qu'on aurait pu amorcer dans le cadre de projets de développement.
Monsieur Dominique Sam, Radio Okapi vous dit merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.